Pour commencer, soyons clairs, hein, l'anxiété est tout à fait normale, ça fait partie de la vie, et c'est plutôt même bon signe qu'on ait de l'anxiété, et très mauvais signe si on n'a pas du tout d'anxiété, comme on blaguait tout à l'heure ensemble. Mais effectivement, pour certaines personnes, l'anxiété est une souffrance chronique. Alors là, on parle plutôt des difficultés effectivement à respirer, étourdissements, les tremblements, les palpitations cardiaques, les engourdissements, les picotements dans les membres, les problèmes gastriques. C'est les bouffées de chaleur aussi hein, qui sont souvent rapportées par les patients, les transpirations. Et puis, dans l'attaque de panique, ce qui est vraiment spécifique, c'est que les patients disent qu'ils ont vraiment la peur de devenir fous. Il y a une peur de la perte de contrôle et puis une perte de mourir. C'est assez spécifique aussi des attaques de panique.
C'est un peu un cercle vicieux, parce que ces symptômes, ils ressemblent à ceux de crise cardiaque. Et puis, quand on panique, ça peut peut-être nous donner encore plus l'assentiment qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous faire paniquer. Ça s'augmente tout seul, en fait.
Tout à fait, c'est effectivement un cercle vicieux. Ma collègue Mona Radar va en parler tout à l'heure. Mais on dénote un fort pourcentage dans les urgences médicales hein, de patients qui croient avoir une attaque de panique, et qui croient avoir une attaque cardiaque. Et c'est très bien, finalement, d'aller tirer ça au clair. Mais qui, au final, ont ce qu'on appelle un trouble anxieux, dont fait partie les attaques de panique.
Qu'est-ce qui déclenche ces crises de panique ? Est-ce qu'on le sait ?
Oui, donc l'état actuel des connaissances à ce sujet parle déjà d'une sorte de prédisposition biologique, génétique. On n'est pas tous égaux à la naissance par rapport à l'anxiété. On va avoir plus ou moins de facilité à déclencher tel ou tel trouble. Et puis l'éducation va avoir une influence. Et puis au quotidien, on a une réaction dans notre cerveau, une analyse face à nos sensations qui vont nous faire croire que cela est plus ou moins dangereux. Effectivement, si on a une sensation dans le corps et que tout d'un coup, on a l'impression d'avoir une crise cardiaque, il est très, très probable qu'on va avoir une augmentation massive de l'anxiété.
Est-ce qu'il y a des causes physiologiques à ces crises de panique ? J'ai lu quelque part que des carences en magnésium, par exemple, pouvaient augmenter le risque de survenance de ces crises. C'est juste ou pas ?
Ce sont des éléments qu'on trouve dans la littérature, mais qui sont assez peu documentés finalement. Mais effectivement, on essaye d'intervenir sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie aussi, entre autres choses. Et par exemple, la consommation de café, le sommeil sont des variables sur lesquelles on peut agir.
Alors, ceux qui ont eu une crise de panique une fois dans leur vie, ben évidemment, ils tentent d'éviter la situation qui a déclenché cette crise de panique. Et ça, c'est quelque chose qui peut finalement être assez invalidant dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, suivant le moment, la situation qui a déclenché la crise de panique et puis qu'on cherche à tout prix à éviter. Ça peut créer des problèmes au quotidien.
Voilà, effectivement, donc semble-t-il, d'après les études à ce sujet, 30% de la population a déjà connu hein, une attaque de panique, mais ça, c'est pas forcément installé. Par contre, pour 2 à 5%, suivant les études, on a vraiment une installation, une chronification finalement de ce symptôme. Et puis, ce que l'on retrouve très souvent comme mécanisme, c'est un évitement des situations où se sont produites ces attaques de panique. Ça peut même aller à faire ce que les personnes évitent de sortir de chez elles, évitent de sortir de leur chambre. Et ça peut devenir extrêmement handicapant. On peut juste noter au passage que certaines personnes essayent de s'automédiquer avec ces attaques de panique pour essayer de juguler ces attaques de panique. Alors elles ont recours des fois à l'alcool, ce qui augmente la problématique, ou à des consommations de médicaments, benzodiazépines notamment, qui, si elles ne sont pas prescrites, posent problème.
Est-ce que vous avez des exemples particulièrement frappants que vous avez rencontrés justement par rapport à ces crises de panique ?
Oui, donc je pense notamment à une patiente qui avait eu une attaque de panique en sortant de chez elle. Donc la particularité par rapport à ces attaques de panique, hein, on parle souvent de agoraphobie avec ou sans attaque de panique. L'agoraphobie, c'est partir loin de son espace de sécurité et ressentir beaucoup d'anxiété par rapport à ça, éviter ça, ou se retrouver dans les foules, ou se retrouver dans les espaces grands. Et puis là, on peut débloquer... dégager une attaque de panique ou pas. Et puis la patiente à laquelle je pense, effectivement, avait ressenti une attaque de panique en sortant de chez elle. Petit à petit, c'était tellement terrifiant pour elle qu'elle a décidé de rester de plus en plus chez elle. Et il a fallu mettre en place tout un système où elle pouvait se confronter au fait de sortir de chez elle. Donc ça peut devenir vraiment très invalidant, très handicapant. Certaines personnes en souffrent discrètement. Il y a beaucoup de honte là autour, hein, il faut le dire. C'est une des raisons pour laquelle on a proposé une intervention en groupe, pour que les personnes puissent déstigmatiser leurs souffrances, partager leurs ressources et leurs difficultés.
Alors, vous animez donc ce groupe thérapeutique dont on va parler tout à l'heure. Avant d'aborder le travail qui est fait dans ces groupes, quelle est la première chose à faire quand on voit quelqu'un dans son entourage qui est pris d'une crise de panique? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui seraient peut-être simples et qui pourraient aider une personne qui est dans ce genre de situation?
Oui, une des premières interventions que l'on peut faire, c'est de lui proposer de reprendre le contrôle de sa respiration. Hein. Une des interventions qu'on entraînera durant ces groupes, c'est le contrôle respiratoire notamment. Le plus efficace, c'est l'hypoventilation. Hein. Souvent dans les attaques de panique, il y a une hyperventilation. On se met à respirer et à avoir une saturation d'oxygène dans le corps, ce qui crée encore plus de sensations et qui fait encore plus paniquer notre système cognitif, nos pensées. Alors, une des premières interventions, c'est de l'aider à respirer plus calmement, en expirant surtout à fond. Alors, on a entendu des interventions comme quoi il fallait utiliser des sacs et le mettre sur la bouche. Moi, je ne suis pas fan de ça parce que ça tendance à faire encore plus peur, hein. On a encore l'impression qu'on va plus étouffer. Mais par contre, de mettre les mains devant la bouche, de reprendre avec cette personne un contrôle respiratoire plus lent, ça peut vraiment être une bonne intervention. La rassurer et puis l'inviter à faire quelque chose pour ça, parce que malheureusement, ces troubles anxieux ont tendance très souvent à se propager si on n'intervient pas, si on n'apprend pas à gérer ça.